Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu.
Louons à toi, Seigneur Jésus.
Le premier jour de la semaine, matin de Pâques, elle court, Marie-Madeleine, celle qui partit de bon matin à la recherche de celui que son cœur aime. Elle venait de vivre le séisme, le tsunami de la mort de celui qui lui avait redonné goût à la vie. Le cœur transpercé par la mort de celui qui l'avait relevé, reconnu dans sa dignité la plus grande d'enfant bien-aimé du Père. Un regard qui l'avait relevé, un regard qui lui avait donné le sens de la vie, où elle avait redécouvert sa vocation la plus grande, elle était l'enfant bien-aimé du Père. Il n'est pas possible d'entrer dans ce temps, ces évangiles de Pâques, sans méditer le scandale du Vendredi Saint, de l'effroyable échec apparent de celui qu'on appelait Messie, l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ. De quoi anéantir les espérances les plus grandes, les plus fortes. Il n'y a pas de Pâques sans Vendredi Saint. Il n'y a pas de Pâques sans Vendredi Saint. Au matin de Pâques, la première messagère de la résurrection sera une femme, Marie-Madeleine, à l'espérance chevillée au corps qui court comme la bien-aimée du cantique qui court à la recherche de celui que son cœur aime. Et deux hommes vont arriver en courant eux aussi, Pierre et le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire un peu chacun de nous. Qu'est-ce qui vous fait courir ce matin ? Lorenz, qu'est-ce qui te fait courir ? Toi qui viens pour être baptisé. Sandrine, ta maman, qui se prépare à la confirmation. Yannick, ton frère, qui se prépare à la profession de foi. Qu'est-ce qui fait courir toute une famille pour grandir dans la foi ? Accueillir le don de Dieu, la vie de Dieu. Qu'est-ce qui nous fait courir ce matin ? Qu'est-ce qui nous met en route ? Est-ce que nous venons simplement faire nos Pâques ? Ou est-ce que nous sentons au fond de nous-mêmes qu'il y a quelque chose de plus profond qui nous habite et qui fait que nous sommes ici, mystérieusement, sans trop comprendre, matin de Pâques ? Même discret, l'événement de la résurrection est un événement dûment établi. Non un prodige éblouissant digne d'un conte de fées, un Christ en gloire terrassant les soldats, prenant une revanche grandiose sur ses adversaires comme on le voit parfois sur des peintures. Ce n'est pas ça. La résurrection, c'est autre chose. C'est un fait établi par un faisceau de signes. la résurrection si discrète qu'on pourrait, comme aujourd'hui encore, passer à côté de ce fait qui va bouleverser la vie de tout croyant, que nous le sachions ou non. Les fêtes, un tombeau vide, un linge roulé à part, un linceul. Ces deux pauvres objets semblent abandonnés par quelqu'un de pressé. Il n'y a pas là de matière à faire un scoop. Discrétion, modestie, c'est la résurrection. Le jour où nous parlera de la résurrection autrement que dans cette modestie, cette discrétion, cette humilité, ce n'est pas la résurrection. Des témoignages si simples de tous ceux qui l'ont vu, de tous ceux qui ont mangé avec lui, de tous ceux qui ont marché avec lui. Et le signe le plus éclatant de cette réalité, sans doute, que ces témoins vont donner leur vie pour le ressusciter. Auraient-ils été capables de mentir toute leur vie, sachant que cela allait les conduire au supplice, comme tous les premiers croyants? Aux yeux du croyant, la preuve la plus manifeste est l'impact incroyable de cet événement, plus de 2000 ans après. Le premier dimanche, ils sont une quinzaine à être témoins de la résurrection. Une semaine après, ils seront 500. Au bout d'un mois, quelques milliers se réuniront au nom de Jésus. Plusieurs années plus tard, le nombre de chrétiens s'établit à quelques millions répandus dans tout l'Empire romain, toutes les villes, villages, les ports. Or, ils avaient contre eux les dieux auxquels ils devaient prêter serment, les empereurs, les intellectuels, les prêtres d'alors, les tribunaux et les fauves du cirque. Voilà ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas d'armée et touchaient les cœurs des riches et des pauvres, des hommes puissants comme des esclaves. Ils affirmaient d'une seule voix que le Christ n'était pas resté dans sa tombe. Aujourd'hui, des millions d'êtres humains continuent de porter la bonne nouvelle de la résurrection partout dans le monde. Et nous entendons encore ces paroles que nous avons entendues dans l'Évangile. Il vit et il crut. Le cœur de l'expérience chrétienne rejoint ce qui vient de se vivre ces trois derniers jours, ce qu'a vécu Marie-Madeleine, Pierre et le disciple bien-aimé. L'expérience de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, l'expérience du mystère pascal, la vie qui ressurgit à l'endroit de la mort, la vie qui renaît au lieu de la blessure. Évidemment, la croix, la souffrance, la mort ne sont pas à rechercher. Cela reste un scandale. Mais au cœur de l'infamie et du scandale, de la vie est possible. Cette expérience est l'expérience de la vie chrétienne par excellence, de la vie reçue, de la fragilité même, y compris de sa propre fragilité, mystère qui est au cœur de toute révélation chrétienne. Exposer au souffle du ressuscité nos impuissances les plus profondes face au mal, c'est lever vers Dieu un regard d'enfant, croire que tout est possible. Voilà ce qui nous est demandé comme chrétiens. Savoir que oui, dans chacun des drames de nos vies, nous avons parfois à accueillir des croix que nous n'avons pas choisies. Mais de croire profondément que la vie est possible, de tenir, d'être debout, de porter un regard. J'apprends à regarder au cœur de ces drames humains et nous en traversons dans notre pays. De voir les signes de vie, de résurrection, d'amour plus fort que la haine, de vie donnée. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous croyons à la résurrection parce que les disciples y ont cru. Nous faisons confiance à leur témoignage. Leur vie et celle de millions de chrétiens a été totalement transformée, bouleversée par cet événement. La mort n'a plus le dernier mot. Et cette joie liée à cette bonne nouvelle, il nous faut la rayonner et la communiquer entre nous. Ce n'est pas une joie mièvre. Je vais aller dire, c'est une joie grave. dans cette espérance, dans ce regard de foi, je sais que la mort n'a pas le dernier mot. Je sais que le mal n'a pas le dernier mot. Je le sais déjà. Est-ce que je l'accueille pour ma propre vie ? Nous sommes envoyés pour annoncer cette bonne nouvelle au monde. Et le Seigneur compte sur nous pour être porteurs de vie et de joie, spécialement aujourd'hui, pour porter un regard d'espérance à temps et à contre-temps sur nos propres vies et la vie de nos proches. Ils sont nombreux, ceux et celles qui luttent contre la maladie, la souffrance physique ou morale, le désespoir. Et ils ont besoin de nous, chrétiens, pour retrouver le goût de vivre, ceux qui sont écrasés par la vie. Un regard qui élève, qui relève, qui aime enfin. Un accueil, un pardon donné, une main tendue, un sourire, une présence amicale silencieuse pour remettre debout. Tout cela peut provoquer un miracle de vie, de renaissance. Et à travers cela, peut-être une parole qui témoignera de notre foi les aidera à rencontrer Jésus, le Christ ressuscité. Hier soir, il y avait 5 baptêmes. 2 d'entre eux ont témoigné à la fin de la messe, témoigné de la vie plus forte que les peurs, témoigné d'un Christ qui se fait aimant et qui vient rejoindre un cœur qui n'attendait qu'une parole de consolation. Magnifique témoignage qui nous disent que Christ est ressuscité aujourd'hui, ici, sur cette terre, en France, ici. L'Évangile nous dit que Marie-Madeleine a couru vers Pierre et le disciple bien-aimé et que ces derniers vont découvrir l'inouï de la promesse de Dieu qui se réalise. Ils vont annoncer la victoire de l'amour sur le mal et la mort. La même mission nous est confiée. Nous ne devons pas avoir peur de rendre compte de l'espérance qui nous habite. Le Seigneur lui-même nous assure de sa présence. Nous connaissons la Pâque chaque fois que nous décidons de nous arracher à l'esclavage de notre égoïsme pour prendre le chemin du don de la liberté. Cette forme de mort à soi-même à chaque décision, quitter son divan pour aller à la rencontre des exclus, des désespérés, des prisonniers, des malades, sortir de nos préjugés moelleux pour aller à la rencontre de l'autre différent. Pâques, passage de la mort à la vie. Où en sommes-nous de notre Pâques, celle des passages quotidiens du pouvoir au service, de la revanche au pardon, du mensonge à la vérité, de la violence à la paix, de l'orgueil à l'humilité, de la haine à l'amour? N'est-ce pas là que le Seigneur nous attend? Choisir d'avoir un regard pascal, au-delà de tout ce qui peut paraître éteint, mort. Oui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.